De la grande visite en studio. Il vient pas souvent, mais quand il vient, on est bien content de l'avoir avec nous. Michel Poitevin, tout bronzé, qui a joué au golf ces derniers jours. Ça va bien, Michel?
Ça va bien, Hélène. Bonjour.
Bonjour, Michel. Donc, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, un bouquet de nouvelles d'actualité. Vous parlez de la baisse des taux d'intérêt. L'annonce va se faire demain?
Demain, la Banque du Canada doit annoncer son nouveau taux directeur. Puis, la plupart des économistes s'entendent pour ce que la baisse soit de 1,5%, ce qui est plus que les dernières. Là, on se rappellera, depuis les trois dernières annonces, on a baissé d'un quart de pourcent. Là, on dit probablement 1,5%.
Ouais.
Et puis, donc, il porterait le taux de 4,25 à 3,75.
Bon. Une bonne nouvelle?
C'est une bonne nouvelle. Il y en a même qui osent penser que peut-être la baisse serait de trois quarts de pourcent.
Il y en a qui osent ça.
Oui, parce que l'inflation est plus faible que prévu. Là, on se rappelle que le taux d'intérêt est là pour mater l'inflation. Au mois d'août, l'inflation était de 1,6%, alors qu'on s'attendait à être plus proche de 2. Donc ça veut dire que la lutte contre l'inflation est peut-être gagnée, puis l'économie canadienne ralentit. Donc, la plupart des gens se situent à 0,5, certains à 0,75, mais il y en a d'autres qui disent « Ah, faut faire attention, peut-être que ça va être un quart de pourcent ». Pourquoi? Bien, le marché du travail est toujours robuste. Même le taux de chômage a baissé un petit peu, donc ça veut dire que ça va relativement bien. La Banque du Canada suit également les hausses de salaire. Ils ont des données sur les salaires, puis les augmentations de salaire suivent également. Donc, on dit bien, peut-être qu'on va être prudent, puis on va juste baisser de un quart de point. Un autre argument, c'est que si on baisse trop, l'écart avec les taux aux États-Unis va être élevé. Puis qu'est-ce qui arrive quand l'écart des taux est élevé? Mais là, les gens qui ont de l'argent à placer, là, qui ont des gros capitaux, ils vont les envoyer aux États-Unis. Donc, ils vont vendre des dollars canadiens puis acheter des dollars américains. Qu'est-ce que ça fait? Ça baisse la valeur du dollar canadien. Pour les contribuables comme nous, parce que la plupart des gens comme nous, on fait pas des gros mouvements de capitaux comme ça, mais si le dollar canadien baisse un peu, mais tous les produits d'importation, on va les payer plus cher parce que les monnaies étrangères sont plus élevées, puis ça pourrait alimenter un petit peu par la bande l'inflation. Alors, on voit là, il y a une petite incertitude demain là où le gouverneur va aller avec l'annonce de taux. La plupart disent 0,5, mais il y a des arguments.
Vous dites quoi, vous?
Oh, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on va y aller avec 0,5. Je ne suis pas sûr qu'on va aller encore très agressivement, mais si dans le prochain mois, on se rend compte que là, le marché du travail refroidit un petit peu, bien là, peut-être qu'on pourrait aller à des
Parce
hausses.
Parce qu'on annonce des baisses à peu près au mois, une fois par mois?
Oui, je pense que c'est 9 ou 10 dates par année. Donc,
c'est presque une fois par
mois. C'est presque une fois par mois. Là,
à suivre, donc, pour demain.
Exact.
On sera le 23 octobre.
Exactement.
Et puis, Michel, la fin ne s'annonce pas proche dans le conflit de travail au port de Montréal. Vous en avez parlé avec beaucoup de détails récemment.
Oui.
Puis là, le conflit ne se règle pas.
C'est ça. Bien, on se souviendra, au départ, on avait fait, les 1200 débardeurs avaient fait une grève temporaire de 3 jours dans 2 terminaux.
Mm-hmm.
Et puis, c'était juste pour 3 jours, ça ne bougeait pas plus. Et là, on a décrété une grève illimitée le 10 octobre des heures supplémentaires. Puis apparemment, les heures supplémentaires, c'est assez critique là, dans l'opération d'un port. Donc là, ils ne font plus d'heures supplémentaires. Le ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, a proposé une trêve de 3 mois au moyen de pression pour nommer un médiateur, pour essayer de voir si le médiateur pourrait
trouver un
terrain d'entente, une résolution au conflit. Les partis n'ont pas pu s'entendre, même sur la venue du médiateur. Donc là, on revient un peu à la case départ. Puis là, le ministre a dit, mais là, il faut que vous progressiez. Là. Il faut que ça bouge.
Alors, mais ça ne bouge pas.
Ça ne bouge pas. On en est là.
Bon. Donc, Northvolt, on en est où?
Northvolt, bon, on en a parlé également. On sait qu'ils sont en difficulté financière. On a quelques billes québécoises placées dans Northvolt. La banque américaine Goldman Sachs, c'est le deuxième plus gros actionnaire de Northvolt après Volkswagen. Donc, Goldman Sachs, là, Northvolt a besoin de liquidités. Alors, Goldman Sachs est prêt à réinjecter des liquidités, mais il ne le fera pas gratuitement. Alors, ce qu'il a demandé à toutes les autres parties prenantes dans Northvolt, donc le gouvernement du Québec, mais aussi le gouvernement allemand et tout, pas de renoncer, mais de céder leurs garanties financières qu'elles ont acquises en échange de l'investissement dans Northvolt, les céder à Goldman Sachs. Donc là, on va dire, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de...
Une grosse demande, quand même.
C'est une grosse demande, mais en même temps, je cite une source gouvernementale, Québec est mal placé devant, est placé devant le dilemme suivant. Je perds mes garanties, puis Northvolt est sauvé par Goldman Sachs, puis je perds mes garanties.
Ouais.
Ou bien je conserve mes garanties, mais Northvolt est foutu, puis là, les garanties valent pas cher de toute façon. Donc, ouais. On est un peu pris. On a le doigt dans l'engrenage, si vous voulez, dans cette grosse...
On appelle ça un nœud gordien.
Oui, ouais, c'est ça. Puis là, on ne sait pas trop comment le défaire. Donc, ça va être à suivre, là, mais ça semble de plus en plus risqué, là, ce pari-là qu'on a pris sur Northvolt. En partie, sur la conjoncture mondiale, c'est pas nécessairement que Northvolt est une mauvaise compagnie. On peut dire qu'ils ont vu plus gros, c'est comme la grenouille qui veut avaler le bœuf, mais en même temps, il y avait un engouement pour les véhicules électriques. Puis depuis quelques mois, ça s'est refroidi beaucoup. Ouais, là. Ouais. Les gens n'achètent plus de véhicules électriques, donc ils n'achètent plus de batteries.
On sent Northvolt... moins la pression. Il y a des subventions aussi qui vont tomber.
Les subventions, c'est ça, au provincial, il va y avoir un échelonnement. Actuellement, au provincial, on a 7 000 $ pour une auto complètement électrique en dessous d'un certain prix là, qui doit être autour de 60 ou 65 000 $. Et puis là, le 7 000, je pense, tombe à 5 000 ou 4 500 mm-hmm. au 1er janvier. Puis sur 2 ans, ça va tomber presque à zéro. Là.
Donc, bon. Alors...
Donc, ça va pas bien pour Northvolt. Ça aussi, ça va être à suivre. Puis même le sauvetage de Goldman Sachs, c'est juste à peu près 300-350 millions. Puis c'est juste pour les 3 prochains mois. Là. Donc, peut-être le temps de donner à Northvolt, le temps de lui donner de se restructurer puis d'essayer de monter un plan d'affaires là, qui tienne mm-hmm. la route.
Je confirme, c'est nœud gordien.
Nœud gordien, c'est ça.
Merci beaucoup, Michel.
Ça m'a fait plaisir.
Vous êtes le bienvenu n'importe quand.
Très agréable de passer en studio.
Au plaisir.
Au revoir.